Chapitre 19. Une mare d'eau. Même si des bruits de vaisselle et des échos de voix montant de la cuisine indiquaient qu'on préparait déjà le petit déjeuner, la salle commune était déserte à cette heure plus que matinale. Sortant par une porte latérale, Moiraine déboula dans la cour des écuries. Personne ne l'avait vue, elle en aurait mis sa main au feu. Jusque-là, tout se passait bien. Le ciel s'éclaircissait à peine et on gelait. Mais la pluie avait cessé, et c'était déjà ça de gagné. Un tissage permettait d'éviter de se faire pleuvoir dessus, mais il était spectaculaire et attirait bien trop l'attention des curieux. Relevant l'ourlet de sa robe et celui de sa cape, afin qu'il ne traîne pas dans la gadoue, Moiraine accéléra le pas. Plus vite elle serait partie, et moins elle risquerait de se faire repérer. Bien entendu, elle ne pourrait pas éviter toutes les rencontres. Par exemple, lorsqu'elle entra dans les écuries, faisant grincer un des battants de la porte, le palefrenier de nuit bondit de sa chaise, comme si une mouche venait de le piquer. Probablement en train de somnoler, il craignait d'avoir été surpris par son patron. Petit, le nez crochu, le bonhomme arborait les yeux inclinés typiques du Saldaea. Passant une main dans ses cheveux en bataille, il esquissa une révérence maladroite.
« Que puis-je faire pour vous, madame ? »
demanda-t-il d'une voix rauque.
« C'est les magiments, Cadine, »
dit Moiraine en posant dans la main tendue du palefrenier un sou d'argent. Se trouver face au même employé qu'à son arrivée était un sacré coup de chance. Maître Elvin avait rédigé une description de flèches dans le livre des admissions, mais elle doutait que Cadine, s'il en avait eu besoin, était capable de lire. Stimulé par le sou d'argent, il se précipita vers la stalle de flèches. D'habitude, il devait plutôt recevoir des piécettes de cuivre. Moiraine regrettait vraiment de laisser son cheval de bas. Mais qui donc l'aurait emmené pendant une promenade matinale? Même une abrutie de noble, ainsi que venait de l'appeler Cadine, marmonnant dans sa barbe qu'il fallait être cinglé pour chevaucher à cette heure, n'aurait pas eu une idée si tordue. De plus, si elle avait pris le second cheval, le palefrenier se serait sûrement précipité dans l'auberge, pour savoir si elle avait réglé sa note avant de partir. C'était bien le cas, avec une nuit supplémentaire dont profiterait maîtresse Palane. Mais Cat Swanet avait pu payer les domestiques pour l'espionner. À la place de la sœur verte, c'était en tout cas ce qu'elle aurait fait. En partant avec Flèche pour une balade, Moiraine s'assurait que nul ne s'inquiéterait de son départ avant le soir, quand on ne la verrait pas revenir. D'où la journée d'avance qu'elle aurait ainsi gagnée. Une fois en selle, elle gratifia le palefrenier d'un sourire glacial, à cause de sa remarque désobligeante, puis sortit des écuries et entreprit de remonter des rues au pavé luisant d'humidité. La journée s'annonçait plutôt bien. Les nuages n'étaient plus nulle part en vue, et il n'y avait pas un souffle de vent. Un temps idéal pour une promenade matinale, non? Les lampes accrochées très haut sur les murs de chaque bâtiment brûlaient encore, ne laissant quasiment aucune zone d'ombre. Même si le ciel s'éclaircissait, il n'y avait toujours personne dans les rues, à part les gardes de la patrouille nocturne, des hommes casqués et armés de hallebardes ou d'arbalètes, et les responsables de l'éclairage. Eux aussi lourdement armés, ces hommes faisaient des rondes incessantes, pour s'assurer qu'aucune lampe ne s'éteignait. Quand on vivait si près de la flétrissure, un myrdral pouvait à tout moment jaillir d'un coin sombre, lorsqu'il y en avait. Mais comment les citadins faisaient-ils pour supporter une telle pression? Les gardes et les responsables de l'éclairage regardèrent passer Moiraine avec de grands yeux surpris. Dans les terres frontalières, personne ne se promenait avant qu'il fasse grand jour. Le sachant, Moiraine fut très surprise de ne pas être la première à se présenter devant la porte ouest. Tirant sur les rênes de flèches, elle resta à bonne distance des trois cavaliers, tous très grands, qui attendaient qu'on leur ouvre, l'un d'eux tenant par la bride un cheval de bât. Tête nue et sans plastron ni pièce d'armure, les trois hommes étaient néanmoins armés d'une épée et d'une arbalète. Dans ces contrées, très peu de voyageurs prenaient le risque de ne pas être armés. Pour l'heure, les trois inconnus se concentraient surtout sur la porte encore fermée. De temps en temps, ils échangeaient quelques mots avec les sentinelles, mais ils semblaient très pressés de sortir. Alors qu'ils avaient à peine remarqué Moiraine, celle-ci eut tout loisir de les détailler à la lueur des lampes. Les deux hommes qui portaient une lanière de cuir autour de la tête, un vétéran et un guerrier plus jeune au visage très dur, devaient être des Malkyri. Avec ses nattes ornées de clochettes d'argent, le troisième était sans doute natif de la Raphaël. Et c'était lui qu'elle avait vu sortir de l'auberge la veille. Lorsqu'un jaillissement de lumière, à l'horizon, indiqua qu'il était enfin l'heure d'ouvrir les portes, plusieurs chariots de marchands étaient venus former une vraie file d'attente devant les sentinelles. Les trois cavaliers occupaient toujours la première place. Moiraine, en revanche, s'était laissé dépasser par une demi-douzaine de chariots, qu'escortaient des gardes armés jusqu'aux dents. Suivant le mouvement, elle traversa le pont, puis s'engagea sur la route qui serpentait au milieu des collines. Les trois hommes la précédaient toujours, suivant à l'évidence la même direction qu'elle. Ils avancèrent à un bon train, tels d'excellents cavaliers qui tirent à peine sur les rênes, mais savent diriger leur monture par des pressions des genoux. Moiraine n'avait rien contre la vitesse. Plus elle mettrait de distance entre Katsuane et elle, et mieux elle se sentirait. Cependant, elle prit garde à rester assez loin des trois hommes pour qu'ils ne remarquent pas qu'elle les suivait. Avant d'en avoir décidé ainsi, elle ne tenait pas à ce qu'ils la repèrent. À ce rythme, la jeune femme eut semé la caravane de marchands bien avant d'aborder le premier village, vers midi. Un hameau plutôt, niché sur le flanc d'une colline. Quelques maisons de pierre à un étage entourant une petite auberge. Même après des mois passés à voyager, Moiraine s'étonna encore de voir que tous les villageois portaient une épée. Et devant chaque porte, une hallebarde au moins attendait sur un râtelier d'armes, en compagnie d'une ou deux arbalètes et de carquois pleins de carreaux. Dans cette atmosphère guerrière, les enfants jouaient au cerceau dans les rues ou s'amusaient à diverses variantes de lancers de sacs de haricots. Les trois cavaliers ne ralentirent pas et ne tournèrent même pas la tête vers le village. Moiraine s'y arrêta assez longtemps pour acheter une demi-miche de pain blanc et un petit morceau de fromage, une variété jaune à pâte très dure qu'elle n'avait jamais goûtée. Elle demanda aussi un peu partout si quelqu'un connaissait maîtresse Aven Saïra. Personne n'en ayant jamais entendu parler, elle repartit, chevaucha ventre à terre et ralentit de nouveau quand elle aperçut les trois hommes loin devant elle sur la route. Les suivre était peut-être une perte de temps. Au fond, il se pouvait qu'ils sachent au maximum le nom de la sœur avec qui l'homme aux clochettes avait parlé. Mais tout ce qu'elle pourrait apprendre sur Katsuane ou les deux autres sœurs n'avait pas de prix. Elle imagina plusieurs plans pour entrer en contact avec les cavaliers et les écarta tous. Sur une route déserte, en pleine campagne, trois hommes pouvaient parfaitement décider qu'une jeune femme était un cadeau du ciel, dont il ne tenait qu'à eux de profiter. Les neutraliser ne serait pas un problème, si on en venait là. Mais justement, Moiraine n'avait aucune intention d'en arriver à ce point. S'il s'agissait de suppôts des ténèbres ou de bandits de grand chemin, il serait de son devoir de les capturer et de les remettre à une autorité compétente. Combien de temps cela lui prendrait-il? Et dans ce cas de figure, comment continuer à cacher son identité? Si une femme capturait trois brigands, le genre de choses qui n'arrivait pas tous les jours, la nouvelle se répandrait comme une traînée de poudre. Moiraine aurait aussi vite fait de tisser une grande colonne de feu au-dessus d'elle, histoire d'aider ses poursuivantes à la rattraper plus vite. La forêt céda la place à une plaine semée de fermes. Puis ce fut de nouveau une forêt, très dense avec ses pins, ses sapins et ses chênes vénérables. Volant au-dessus de la cavalière, un aigle à crête rouge projeta bientôt son ombre sur le sol à la faveur du coucher de soleil. Sur la route, il n'y avait que les trois hommes avec leur cheval de bât. L'heure du dîner approchait, et les gens normaux devaient être tous rentrés chez eux, non qu'il y ait eu beaucoup de fermes dans le coin. Alors que sa propre ombre s'allongeait, Moiraine décida d'oublier les trois cavaliers et de chercher un endroit où dormir. Avec un peu de chance, elle tomberait quand même sur une ferme. Et si quelques sous d'argent ne lui permettaient pas de louer un lit, un coin de grange ferait l'affaire. Quand on devait improviser, une selle faisait un excellent oreiller. Peut-être un peu dur, mais bon. Un repas ne serait pas superflu non plus. Le pain et le fromage étaient déjà loin. Devant Moiraine, les trois cavaliers s'arrêtèrent soudain au milieu de la route et se mirent à discuter. Moiraine s'arrêta aussi. Même s'il la remarquait, la prudence la plus élémentaire pour une femme seule consistait à ne pas avancer vers des inconnus. Un des hommes, tirant le cheval de bas, s'enfonça dans la forêt, sur la gauche de la route. Les deux autres repartirent, lançant leur monture au galop, comme s'ils se souvenaient tout à coup d'un rendez-vous important. Moiraine plissa pensivement le front. L'homme aux clochettes était l'un des deux cavaliers brusquement pressés. Certes, mais puisqu'ils voyageaient ensemble, il avait pu parler de sa rencontre avec une Aes Sedai au type qui s'était enfoncé dans la forêt. Le plus jeune des deux Malkieri avait cru voir Moiraine. Les gens se racontaient les événements de ce genre. Assez peu d'hommes, en fait, avaient rencontré une sœur en sachant exactement qui et quoi elle était. Mais si elle était prudente, un seul adversaire lui causerait bien moins d'ennuis que trois. Chevauchant jusqu'à l'endroit où le jeune Malkieri s'était séparé des autres, Moiraine entreprit d'examiner les traces. Beaucoup de nobles dames laissaient ce travail à leur rabatteur, mais à l'époque où monter aux arbres et se couvrir de poussière la fascinait, la jeune femme s'était aussi passionnée pour l'art de suivre une piste. Du premier coup d'œil, elle constata que le cavalier n'avait rien d'un homme des bois. Les brindilles cassées et les feuilles piétinées laissaient une piste qu'un enfant aurait pu relever. Après une centaine de pas dans la forêt, Moiraine aperçut une grande mare droit devant elle. Le jeune Malkieri était là. Son cheval déjà descellé, une très belle bête pour un homme portant une veste si usée, peut-être la preuve qu'il s'agissait bien d'un bandit, il était en train de poser sur le sol ses sacoches de sel. De près, le gaillard semblait encore plus imposant, avec ses larges épaules et sa taille relativement fine. Cela dit, ce n'était pas un bel homme. Pas avec ses traits anguleux parfaits pour un brigand digne de ce nom. Débouclant son ceinturon d'armes, il s'assit en tailleur devant la mare, laissa tomber son arme à côté de lui et posa les mains sur ses genoux. Puis il sembla sonder le paysage devant lui, au-delà de l'eau qui brillait encore faiblement à la lumière du crépuscule. Fixait-il les roseaux qui se dressaient de l'autre côté de l'eau? En tout cas, il ne bougeait pas davantage qu'une statue, un homme au visage de pierre. Moiraine comprit que le jeune homme était resté en arrière pour dresser un camp. Les autres allaient donc revenir, mais pas de sitôt, puisqu'il prenait tout son temps. Une question ou deux ne le retarderait pas trop. « Lequel d'entre vous a récemment parlé avec une Aes Sedai? Voilà qui suffirait peut-être. » Et si l'homme s'énervait un peu, par exemple parce qu'elle serait arrivée dans son dos sans qu'il l'entende, il répondrait peut-être encore plus promptement que prévu. Le Saïdar déliait les langues, mais elle devait le garder en réserve. Elle devrait y recourir, sans nul doute, mais découvrir qu'elle avait le pouvoir devrait être une surprise supplémentaire pour sa victime. Moiraine attacha les rênes à la branche basse d'un arbre, puis elle remonta les ourlettes de sa robe et de sa cape et avança aussi silencieusement que possible. Parvenue au sommet d'un tertre, à quelques pas du Malkiri, elle décida d'y rester. Avoir l'avantage de la hauteur face à un homme de grande taille serait positif. Et très utile quand il la découvrirait, un couteau dans une main et son épée dans l'autre. S'ouvrant à la source authentique, Moiraine fit léviter jusqu'à elle l'épée du jeune homme. Toutes les surprises qu'elle pourrait faire à ce brigand auraient... Le Malkiri se déplaça à une vitesse impossible, surtout pour quelqu'un d'aussi grand. Alors qu'elle refermait la main sur le fourreau volant, il se retourna, se détendit comme un ressort, saisit l'arme au vol et, de l'autre main, agrippa le devant de la robe de Moiraine. Avant d'avoir pu improviser un tissage défensif, la jeune femme se retrouva en train de voler dans les airs. Voyant l'eau fondre sur elle à une vitesse folle, elle eut juste le temps de crier quelque chose. La lumière seule aurait pu dire quoi. Puis elle percuta la surface à plat ventre, le choc lui coupant aussitôt le souffle. L'eau était glacée. Sonnée, Moiraine perdit le contact avec le Saïdar. Se redressant maladroitement, elle resta plantée là, de l'eau glacée jusqu'à la taille. Ses vêtements trempés pesant sur ses épaules, les cheveux lui pendant en mèches humides devant les yeux, elle se tourna face à son adversaire, s'ouvrit de nouveau à la source et se prépara à rosser l'homme à distance, jusqu'à ce qu'il la supplie d'arrêter. Le Malkiri, perplexe, regarda le tertre où se tenait son attaquante, puis l'endroit où elle s'était écrasée dans l'eau. Une sacrée distance quand même. Il se désintéressait d'elle, comme si elle avait été un poisson volant. Quand il daigna enfin s'aviser de son existence, il posa son épée sur le sol, approcha du bord de la mare, se pencha et tendit une main à la jeune femme.
« Essayer de séparer un homme de son épée n'est jamais une bonne idée, » dit-il. Remarquant les rayures sur le devant de la robe mouillée, il ajouta « Madame, pas l'ombre d'une excuse. Ses yeux bleus évitant ceux de Moiraine, cachait-il de l'amusement? Eh bien, s'il l'osait, il allait voir de quel bois elle se chauffait. » Pataugeant dans l'eau, Moiraine avança jusqu'au point où il lui devint impossible de saisir entre ses deux mains le bras que lui tendait l'inconnu. Mobilisant toute sa force, elle se hissa hors de l'eau. Enfin, elle essaya. Mais quand on était trempé, sonné, et immergé jusqu'à la taille dans une onde glacée, le Malkiri se redressa et leva le bras. Moiraine sortit de l'eau, accrochée à sa main comme s'il venait de la pêcher. Furieuse, elle foudroya l'inconnu du regard, jusqu'à ce qu'il l'ait posé à terre. Dès que ce fut fait, il recula prudemment.
« Je vais faire du feu, et vous confectionner un paravent avec une couverture, pour que vous puissiez vous sécher. »
murmura le Malkiri, toujours sans croiser le regard de Moiraine. Que cherchait-il à cacher? Ou était-il tout simplement timide? Elle n'avait jamais entendu parler d'un suppôt des ténèbres farouche, mais ça ne voulait rien dire. En tout cas, il tint parole. Quand les deux autres hommes se remontrèrent, Moiraine, protégée par plusieurs couvertures pendues aux branches d'un chêne, était debout à côté d'un feu censé la sécher. Pour ça, elle n'avait nul besoin de flamme, bien entendu. Un simple tissage d'eau avait débarrassé ses cheveux de toute humidité. Idem pour ses vêtements, avant même qu'elle les ait retirés. Mais grâce au paravent, le jeune homme ne s'était aperçu de rien. Il n'avait rien vu, et il ne la reverrait pas non plus avant qu'elle se soit peignée puis brossée comme il convenait. De plus, la chaleur des flammes était très agréable. De toute façon, elle devait rester à l'abri au milieu des couvertures assez longtemps pour que le Malkiri pense qu'elle s'était séchée comme n'importe qui l'aurait fait. Par prudence, elle ne s'était pas coupée du Saïdar. Pour l'instant, elle n'était sûre de rien.
« Elle nous suivait pour de bon, Lan ?»
demanda une voix masculine. Des clochettes tintèrent lorsque l'homme aux nattes mit pied à terre.
« Pourquoi as-tu accroché des couvertures à un arbre ?»
demanda une voix peu aimable.
Moiraine n'entendit pas la réponse du Malkyrie nommé Lan. Les trois cavaliers savaient qu'elle les suivait. Si elle interprétait bien la question de la Raphélien, ça ne faisait pas de doute. Par les temps qui couraient, les hommes se méfiaient à juste titre des bandits. Ceux-là auraient repéré une femme seule et décidé qu'elle les pistait?
Voilà qui n'avait aucun sens.
Et pourquoi la tirer dans la forêt au lieu de l'interpeller directement? Trois hommes n'avaient aucune raison de craindre une femme seule, sauf s'ils savaient avoir affaire à une Aes Sedai. Dans ce cas, ils se seraient effectivement montrés très prudents. Mais Moiraine aurait juré que le Malkyrie ignorait comment elle lui avait, presque, subtilisé son épée.
« C'est une beauté du Kyrienne, Lan. J'imagine que tu en as déjà vu une toute nue. Moi, jamais. »
Cette phrase retint hautement l'attention de Moiraine. Étant toujours unie à la source, elle entendit un autre son, plus discret, celui de l'acier qui frotte contre du cuir. Quelqu'un venait de dégainer une épée. Tout en préparant plusieurs tissages qui doucheraient l'enthousiasme des brigands, Moiraine écarta légèrement les couvertures pour voir ce qui se passait. À sa grande surprise, elle découvrit que l'homme qui avait failli la noyer, Lan, s'était campé devant son paravent, épée au poing. Le type aux clochettes, en face de lui, semblait avoir du mal à comprendre ce qui se passait.
« Tes yeux ont un jour vu les mille lacs, Rhein, » dit très froidement Lan. « Une femme aurait-elle besoin d'être protégée de ces yeux-là ?»
Un instant, Moiraine crut que Rhein allait lui aussi tirer son arme au clair, bien que son adversaire ait déjà la sienne en main. Mais le vétéran, Bukama, s'interposa et entreprit de calmer les deux fougueux compagnons en leur proposant de régler cette affaire au sept. Il s'agissait d'un jeu, comme le constata Moiraine, et hautement dangereux, surtout à la chiche lumière du crépuscule. Assis en tailleur face à face, Lan et Rhein devaient dégainer leurs lames et l'immobiliser à un pouce de la gorge de leur vis-à-vis. Après le premier défi, Bukama désigna Rhein du doigt, comme s'il avait gagné. Le jeu continua, et tant que Moiraine s'y intéressa, l'issue fut la même. Au fond, Rhein ne s'était peut-être pas montré si présomptueux que ça, quelques instants plus tôt. Alors qu'elle attendait à l'abri des couvertures, Moiraine tenta de se remémorer ce qu'elle savait du Malkyr. Pas grand-chose, dut-elle s'avouer, à part quelques notions historiques. S'il avait vu les mille lacs, Rhein devait être un compatriote des deux autres. Et au sujet de leur pays, elle se souvenait vaguement de quelque chose, au sujet des femmes en détresse. Maintenant que le contact était établi, rester avec les trois hommes lui permettrait de glaner les informations qu'elle cherchait. Dès qu'elle fut prête à passer à l'offensive, la jeune femme sortit de son refuge.
« Je réclame le privilège dû à une femme seule, » dit-elle, très solennelle. « Je vais à Tchatchin, et je demande la protection de vos épées. »
Elle déposa une couronne d'argent dans la paume de chacun des trois hommes. Elle n'aurait pas juré que le rituel de la femme seule était vraiment Malkyrie, mais le langage de l'argent, lui, n'avait pas de frontières.
Une fois à destination, deux couronnes de plus pour chacun.
Les trois Malkyries ne réagirent pas comme Moiraine s'y attendait. Rhein fit tourner sa pièce entre ses doigts en la regardant d'un air mécontent. Lan jeta à peine un coup d'œil à la sienne, puis il la glissa dans sa poche avec un grognement. Moiraine s'avisa alors qu'elle avait donné à ses protecteurs des pièces de Tarvalon. Mais on en trouvait partout, comme celles des autres pays. Et ça ne voulait pas nécessairement dire que... Bukama fit une révérence, la main gauche posée sur son genou.
« Vous servir est un honneur, gentille dame, » dit-il. « Jusqu'à Tchatchin, je vous défendrai au péril de ma vie. »
Le vétéran avait également les yeux bleus. Lui aussi évitait de croiser le regard de Moiraine. Elle espéra que ce n'était pas un suppôt des ténèbres particulièrement sournois. Quant à apprendre des choses, eh bien, ça se révéla impossible. Pour commencer, les trois hommes furent bien trop occupés pour parler. Dresser le camp, soigner les chevaux, allumer un feu. Apparemment, ils n'avaient aucune envie de passer cette nuit de nouveau printemps sans une bonne flambée. Ensuite, Bukama et Lan ne dirent pas un mot, pendant le repas composé de pain azim et de viande séchée. Un festin que Moiraine s'efforça de ne pas dévorer gloutonnement. Rhein parla à lui, et il se révéla charmant, avec la fossette qui se creusait dans sa joue chaque fois qu'il souriait. Ses yeux pétillants d'intelligence, il n'offrit pas une seule ouverture à Moiraine, qui ne put évoquer ni l'auberge ni les Aes Sedai. Et lorsqu'elle lui demanda pourquoi il allait à Tchatchin, le Malkyrie répondit tristement.
« Parce qu'il faut bien mourir quelque part. »
Sur ces fortes paroles, il alla dérouler sa couverture. Une étrange réponse, digne d'une Aes Sedai. Lan prit le premier tour de garde. Alors que la lune se levait, il s'assit en tailleur, pas très loin de Rhein. Quand Bukama eut étouffé un peu les flammes et se fut enroulé dans sa couverture, assez près de Lan, Moiraine tissa une protection autour de chacun des hommes. Un flux d'esprit qu'elle pourrait maintenir tout en dormant. Si un des Malkiri se déplaçait pendant la nuit, la protection l'avertirait sans alerter personne d'autre. Bien entendu, Moiraine serait réveillée à chaque tour de garde. Mais toute médaille avait son revers. Elle s'installa à bonne distance des trois hommes. À la quatrième relève de la garde, elle entendit Bukama murmurer quelques mots qu'elle ne comprit pas. En revanche, elle entendit très bien la réplique de l'âne.
« Je préférerais encore me fier à une Aes Sedai, mon ami. Va dormir. »
Toute la colère que Moiraine contenait à grand-peine explosa en elle. Ce sale type l'avait jeté dans une mare glacée, il ne s'était pas excusé et... c'en était trop. Elle canalisa le pouvoir, mêlant dans un tissage subtil des filaments d'eau, d'air et de terre. Un cylindre d'eau s'éleva au-dessus de la mare, s'incurva et s'allongea jusqu'à un certain malotru et... tomba sur lui, histoire de lui apprendre la politesse. Éclaboussés, Bukama et Rain se levèrent d'un bond en jurant comme des charretiers. Impitoyable, Moiraine continua à alimenter son torrent pendant 10 secondes. Alors que le camp entier recevait une bonne douche, elle espéra voir un Malkiri à demi-gelé recroquevillé sur le sol et prêt à se montrer un peu plus respectueux. L'âne était trempé comme une soupe, un petit poisson frétillant à ses pieds. Mais il était debout, sa lame dégainée.
« L'attaque d'une créature des ténèbres ?» demanda Rain, stupéfait.
« Peut-être, » répondit l'âne. « Mais je n'ai jamais entendu parler d'un phénomène de ce genre. »
« Rain, veille sur la femme. Bukama, patrouille à l'ouest et reviens par le sud. Je me charge de l'est, et je reviendrai par le nord. »«
Il n'y a pas de créature des ténèbres !»
lança Moiraine. Les trois Malkiri se pétrifièrent. Ils la regardèrent, et elle regretta de ne pas mieux voir leur expression. Mais la pénombre était aussi sa complice, la rendant mystérieuse à souhait. Non sans effort, la jeune femme parvint à adopter le ton neutre qui convenait à une sœur.
« Maître Lane, il est mal avisé de ne pas se montrer respectueux avec une Aes Sedai. »«
Une Aes Sedai ?»
gémit Rain. Malgré l'obscurité, Moiraine eut de la surprise dans ses yeux, voire de la peur. Plus personne ne dit un mot. En grognant, Bukama éloigna sa couverture de la zone transformée en bourbier. Rain l'imita et esquissa une révérence chaque fois que Moiraine regarda dans sa direction. L'âne ne fit aucun effort pour se sécher. Il fit mine de chercher un autre endroit où s'installer, puis changea d'avis et se rassit dans la gadoue. Une manifestation d'humilité? Moiraine aurait pu le croire si leurs regards ne s'étaient pas enfin croisés. Si celui de Malkiri était humble, les rois devaient sans nul doute être les gens les plus soumis du monde. Moiraine tissa de nouveau une protection autour de ses compagnons. Depuis qu'elle avait révélé son identité, c'était encore plus nécessaire. Malgré cette précaution, elle eut quelque peine à se rendormir. Trop de pensées tourbillonnaient dans son esprit. Par exemple, ces types ne lui avaient pas demandé pourquoi elle les suivait. Et après sa douche forcée, l'âne était debout. Et, lorsqu'elle dériva enfin vers le sommeil, Moiraine se surprit à penser à Rain. S'il avait peur d'elle, désormais, quel dommage. Et quel gâchis, s'il était un suppôt de ténèbres. Plutôt bel homme, il savait se montrer charmant. À vrai dire, qu'un homme veuille la voir sans vêtements ne la dérangeait pas, s'il s'abstenait de le crier sur tous les toits.